Vous êtes sur RTL.
Marlène Schiappa, on parle donc du Grenelle contre les violences conjugales et on a beaucoup de questions. On va commencer avec Betty qui est médecin et qui nous appelle de Nantes. Bonsoir Betty.
Bonsoir à vous, merci Bonsoir. De
Madame
prendre
Schiappa
mon appel.
Vous écoute.
Bonjour Madame la Ministre, merci de prendre mon appel. Alors je suis médecin généraliste, je suis proche de malades alcooliques et je suis présidente d'une association de proches de malades alcooliques. Donc nous les proches, nous vivons dans l'ombre, hein. Nous subissons au quotidien des maltraitances invisibles avec un sentiment de honte et de culpabilité. On nous traite de codépendants, alors qu'en réalité, nous maintenons l'équilibre précaire de notre foyer, de notre famille. Et en réalité, nous avons des statuts d'aidants. Donc, Madame la Ministre, nous, dernièrement, COPMA vous a adressé un courrier le 7 octobre et le 11 novembre. Et à ce jour, nous n'avons aucune réponse de votre ministère. Donc, notre lutte de proches de malades, c'est la même que celle de toutes les associations qui sont présentes au Grenelle. N'oublions pas qu'un féminicide, c'est le résultat d'un long parcours de souffrances silencieuses et méconnues. Et pour nous, la priorité actuellement, c'est un travail en amont de prévention.
Plus de prévention, Marlène Schiappa.
Bien sûr, merci pour votre appel et pour votre question. J'ai bien eu connaissance de ce courrier puisqu'il a été adressé à la presse et donc je l'ai découvert dans la presse et bien évidemment, nous avons commencé à travailler une réponse. Il y a des délais de réponse et je m'en excuse, mais nous recevons plusieurs centaines de lettres par semaine et donc il y a un petit délai de traitement. Sur la question du fond, vous avez tout à fait raison de pointer la responsabilité de l'alcool et d'ailleurs, on pourrait rajouter également des stupéfiants. Ce ne sont pas les causes des violences conjugales, mais c'est parfois un déclencheur en termes de passage à l'acte et c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de travailler avec la ministre de la Santé sur les questions de recherche de toxicologie et d'alcoolémie dans tous les faits de violence conjugale, ce qui permettrait de traiter cette partie de dépendance à l'alcool ou aux stupéfiants et d'apaiser la situation en réalité sur ces sujets-là. Mais c'est un vrai sujet et vous avez raison de le soulever.
On a beaucoup de questions sur RTL.fr et notamment sur la prescription. Alors on sait que Roman Polanski ne pourrait pas être jugé des accusations dont il a été l'objet en fin de semaine puisque là le crime serait prescrit et prescrit, le crime présumé. Question de Claudine. Aujourd'hui, il y a une prescription de 30 ans pour les viols sur mineurs. Faut-il rendre les viols sur mineurs imprescriptibles ?
Alors d'abord, j'aimerais rappeler qu'il y a une prescription de 30 ans parce que nous l'avons allongée. Pendant la campagne présidentielle est sorti le livre de Flavie Flamand, La Consolation. Et j'avais pris l'engagement au nom alors candidat Emmanuel Macron auprès de Flavie Flamand que nous allions allonger des délais de prescription.
Mais la question est précise, faut-il les rendre imprescriptibles ?
Mais moi je vous réponds sur ce que nous avons déjà fait, c'est-à-dire que nous avons déjà allongé l'année dernière de 10 ans les crimes sexuels commis sur mineurs. Maintenant, une femme ou un homme au demeurant a 30 ans après sa majorité pour pouvoir déposer une plainte.
Ce qui n'est pas suffisant dans le cas d'Adèle Haenel, par exemple.
Je ne crois pas qu'il faille, dans le cas d'Adèle Haenel...
De la victime de Roman Polanski, victime
présumée. Je ne crois pas qu'il faille aller vers une imprescriptibilité. Nous avons eu ces débats à l'Assemblée nationale l'année dernière et la représentation nationale s'est
Mais
prononcée pour un délai de 30 ans.
Elle signifie quoi cette prescriptibilité ? Pourquoi mettre un terme, dire
c'est
voilà
une,
au bout de 30 ans
c'est
trop tard.
C'est une bonne question et c'est une question quasi philosophique. Mais il y a ce qu'on appelle une échelle des peines et une échelle des prescriptions. Dans ces cas-là, si on décide que sont imprescriptibles les crimes sexuels sur mineurs, par exemple, ça veut dire qu'il faudrait peut-être aussi rendre imprescriptibles les crimes tout court sur mineurs et peut-être rendre imprescriptibles aussi les crimes sexuels sur majeurs, sur jeunes majeurs. Où est-ce qu'on met le curseur ? Il y a un seul crime qui est imprescriptible en France, ce sont les crimes contre l'humanité. C'est notre droit qui est fondé là-dessus et qui est fondé sur un système de prescription.
Donc au bout de 30 ans et un jour, l'auteur peut se dire ouf, je suis passé
non,
à côté.
Non, il ne peut pas se dire ouf parce qu'il peut y avoir une plainte et c'est d'ailleurs ce qu'a fait Flavie Flamand et ça a permis l'ouverture d'une enquête et la plainte de beaucoup d'autres femmes. On peut en débattre, c'est encore une fois un sujet vraiment très constitutionnel et intéressant, mais assez subtil et plus large que la question des crimes sexuels.
On a une question de Unza qui nous appelle de Toulouse. Bonsoir Unza, vous pouvez poser votre question à Marlène Schiappa.
Oui, bonsoir Madame Schiappa. Alors moi je voulais vous poser une question, on parle beaucoup de féminicide dans le sens... meurtre, assassinat. Mais je voulais savoir, en amont de tout ça, il y a une autre manière aussi qui existe de tuer les femmes, socialement, psychologiquement, moralement. Et j'aimerais savoir, est-ce qu'on fait quelque chose, est-ce qu'on va faire quelque chose pour ça, contre ça ? Moi, personnellement, je vis des situations de violence depuis très longtemps. J'ai bénéficié d'une ordonnance de protection. J'ai manqué peut-être de mourir parce que j'ai pris des coups au crâne à l'aéroport de Blagnac il y a quelques années de ça. Et au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que des choses ont été mises en place et que mon ex a peut-être beaucoup de mal à m'atteindre physiquement, mais il n'empêche qu'il arrive quand même à instrumentaliser la justice et à continuer toujours de me harceler par toutes les manières possibles. Et donc, voilà, c'est très ému que je reviens vers vous et que je vous demande comment faire pour se libérer de ça.
Merci, Ounza, de votre courage et de votre témoignage. Marlène Schiappa.
D'abord, oui, merci beaucoup pour votre témoignage. On sent et on entend que vous êtes très ému et on le comprend évidemment. Mais je voudrais simplement, avant de vous répondre sur le fond, vous dire que votre témoignage peut aussi beaucoup réconforter des gens qui nous écoutent sur RTL et qui vont se reconnaître dans ce que vous dites et peut-être comprendre qu'elles aussi sont victimes de violences dites psychologiques et de menaces. Donc c'est très important que vous le fassiez et merci vraiment pour votre appel et pour ce témoignage. Sur la question de fond que vous soulevez, c'est-à-dire les menaces, le harcèlement, la pression permanente que vous vivez en tant que victime de violences conjugales, c'est extrêmement important et on a créé un groupe de travail sur la question des violences psychologiques. Moi, je vais vous parler d'un féminicide qui s'est produit récemment, il y a quelques mois de cela. C'est une jeune femme qui avait été victime de violences conjugales et son compagnon l'a poussée à sauter par la fenêtre. Est-ce que ça veut dire qu'il n'a aucune responsabilité parce que ce n'est pas lui qui l'a poussée, mais qu'il l'a forcée psychologiquement par des manipulations perverses à sauter elle-même par la fenêtre? Je ne suis pas sûre qu'il n'ait aucune responsabilité, pour le dire avec un véritable euphémisme. Et donc on travaille sur les violences psychologiques pour mieux les définir dans la loi. Et il y a une experte à laquelle nous avons fait appel, qui est une ancienne avocate qui s'appelle Yael Mellul, qui travaille sur la question des suicides forcés, qui est extrêmement important, qui doit être mieux défini, je crois, pour être mieux appréhendé, y compris par la justice.
Mais Marlène Schiappa, est-ce que tout ça ne va pas beaucoup trop lentement? Pourquoi attendre le 25 novembre? Pourquoi ça prend tellement de temps? Certains vous reprochent de faire de la com, d'attendre le 25 novembre parce que c'est la journée des violences faites aux femmes, la journée mondiale, etc. Pourquoi on a le sentiment qu'il y a de la volonté, mais il n'y a pas les actes n'enchaînent? Est-ce que vous pouvez nous annoncer quelque chose de concret ce soir qui a déjà été décidé pour ce Grenelle?
D'abord, je veux vous dire que je trouve que c'est un peu injuste, avant de vous répondre, ce procès qui est fait au gouvernement. Maintenant, dès lors qu'il y a un féminicide, on a l'impression qu'on déresponsabilise totalement l'auteur de féminicide.
Il y en a presque un tous les jours en ce moment.
Mais bien sûr, mais vous me dites ça à moi, c'est drôle. Moi, ça fait depuis l'âge de 15 ans que je suis engagée sur ces sujets. Et c'est moi qu'en général, les préfets ou la police appellent pour faire les rapports et m'expliquer les circonstances exactes des féminicides. Je dors avec mon téléphone allumé sous mon oreiller dans la peur qu'on m'appelle pour me raconter le dernier féminicide. Donc, si vous voulez, je trouve que ce procès, faisant comme si ce serait le gouvernement, le Premier ministre, le Président ou moi-même qui aurait tenu le
couteau. Mais parce que derrière, on regarde votre budget maintenant, et on sait que votre budget ne bouge pas par rapport
à
l'année dernière.
C'est pas vrai, mon budget bouge. Mon budget, il est à 1,116 milliard d'euros. Il n'a jamais été aussi élevé. Donc
non, ça, c'est alors ça, c'est le budget de la politique de l'égalité entre les hommes et les femmes.
Mais bien sûr.
Dedans, il y a beaucoup d'autres choses qui n'ont rien à voir. 210 millions d'aide économique au développement, 66 millions de solidarité.
Ça n'a pas rien à voir. L'aide publique au développement, vous savez à quoi elle sert? Elle sert au fond du professeur Mukwege, qui est prix Nobel de la paix, qui répare des femmes victimes de violences sexistes et sexuelles et de viols de guerre. Ça n'a pas rien à voir. On est pleinement dans le sujet.
Le budget de votre secrétaire d'État, il est de 29 871 581
Absolument.
Euros cette année, contre 29 076 722 euros en 2018.
Mais il n'est pas l'ensemble.
Donc il n'est pas d'un milliard,
mais
c'est pas
il
vrai.
N'est pas...
C'est pas vrai.
Alors, vous avez des informations que la direction du budget de ce pays n'a pas. On
non,
peut débattre, si vous voulez.
C'est comme vous, j'ai le budget.
Il y a un document, bien sûr. Ah. Moi, j'aurais pu vous amener le document de politique transversale, qui est le document qui est calculé par la direction du budget de l'État. Je vais vous donner un exemple, parce qu'on va être concret un peu. La plateforme dont je vous ai parlé tout à l'heure, où il y a 20 policiers et 20 gendarmes, 24 heures sur 24, qui dialoguent avec les femmes victimes de violences conjugales. Ça n'est pas dans mon budget. C'est dans le budget du ministère de l'Intérieur. C'est pour ça que c'est dans le document de politique transversale et que ce n'est pas dans ce budget. Les bracelets d'éloignement, il y a 5,8 millions budgétés par le ministère de la Justice, plus 1,8 million d'euros par an pour le fonctionnement. Ça n'est pas dans mon budget. C'est dans le
budget. On n'est pas dans votre budget, mais il est inexact de dire qu'il y a plus d'un milliard consacré aux violences faites aux femmes aujourd'hui.
Il y a 1,116 milliard consacré à l'égalité entre les femmes et les hommes dans ce pays pour l'année 2020. C'est voté dans le plan de loi de finances par l'ensemble des parlementaires.
Il y a ça et il y a d'autres. Chacun se fera une idée en allant voir le document. On a une question de Nicolas qui nous appelle de Nîmes, je crois. Bonsoir Nicolas.
Oui, bonsoir.
Madame Schiappa vous écoute.
Je tenais à témoigner car j'ai été moi-même mari très violent. Et je trouve que les sanctions judiciaires ne sont pas suffisamment importantes concernant les gens qui ont été, enfin qui sont ou qui ont été comme moi. Je pense que moi je suis passé au tribunal sans plainte de mon épouse, enfin, de mon ex-épouse, donc par amour ou par peur des représailles. Mm-hmm. Et en fin de compte, j'ai été condamné à de la prison avec sursis. Je pense que la lenteur administrative également, on devrait avoir, comme dans certains cas, la comparution immédiate dès qu'il y a une intervention de la police ou de la gendarmerie, il devrait y avoir une comparution immédiate pour que la personne, parce qu'on s'aperçoit que les meurtres arrivent avant que ce soit jugé, très souvent. Alors que si y avait une comparution immédiate et avec de la prison à la clé, parce que ce qui fait peur aux gens, c'est la prison ferme. C'est pas le sursis, ça fait peur à personne. La prison ferme, quand vous risquez de perdre votre emploi, quand votre vie risque d'être basculée, à ce moment-là, les gens vont prendre conscience qu'il faut pas passer la ligne. Ou s'ils passent la ligne, après, il n'y a plus aucune excuse.
Merci Nicolas, témoignage intéressant d'un ancien
violent. D'abord, merci monsieur d'appeler et de faire part de cette lucidité que vous avez sur vous-même et d'appeler à la fermeté. Vous savez, il y a une mesure qu'on va mettre en œuvre à partir de maintenant, qui est la réquisition des armes. Et cette saisie des armes, elle aura lieu dès l'enquête. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre qu'il y ait un jugement qui soit rendu. Dès lors qu'il y aura une plainte et une ouverture d'une enquête, la police, la gendarmerie pourra saisir les armes. C'est très important parce qu'on dit souvent « morte sous les coups de son conjoint ». En réalité, le premier mode opératoire, ce sont les armes à feu. Et donc si on saisit les armes à feu, on enlève déjà un mode opératoire. On n'arrive pas au risque zéro, mais en tout cas, on part d'une tolérance zéro, comme on le fait d'ailleurs
ça,
dans les aéroports.
Les armes seront saisies.
Ça, c'est acquis, ce sera fait.
C'est une nouveauté du
Absolument.
Grenelle.
Et on fait, en fait, c'est une même approche que ce qu'on a dans les aéroports face au terrorisme. On essaye de supprimer les modes opératoires un à un pour protéger les personnes.
Madame Schiappa, dernière question. Il y a encore beaucoup et merci à toutes les auditrices et les auditeurs qui nous appellent ce soir. Malheureusement, on ne pourra pas répondre à tout le monde, mais il faudra revenir. J'ai une dernière question. Est-ce que vous souhaitez que ce soit Emmanuel Macron, en tant que chef de l'État, qui présente les conclusions de ce Grenelle le 25 novembre ?
Moi, je suis secrétaire d'État rattachée au Premier ministre. Je n'ai pas d'ordre ou de souhait à donner au président de la République.
Les associations de défense des femmes et beaucoup de gens souhaitent que symboliquement, ça soit incarné par le président de la République.
C'est leur souhait. Je respecte bien évidemment leur souhait. Je comprends cette demande d'engagement et de parole du président de la République. Le président s'est rendu pour le lancement du Grenelle des violences conjugales au 39-19. J'y étais. C'était un moment très fort parce qu'il a mis un casque avec l'écoutante, et il a passé longtemps à entendre les femmes elles-mêmes et à voir des dysfonctionnements.
Mais le 25 novembre, c'est lui qui parlera ou pas alors ?
Je ne sais pas à ce stade qui s'exprimera au moment du 25 novembre, mais le président de la République suit ce dossier avec énormément d'intérêt, de même que le Premier ministre avec qui nous en avons parlé pas plus tard que tout à l'heure.
Mais il entend que beaucoup ont envie d'entendre sa voix au regard de sa fonction.
Mais j'imagine qu'il l'entendra en vous écoutant.
Parce que vous êtes libre de parole, vous devez lui dire, vous j'imagine.
Les échanges entre le président de la République et ses ministres restent entre le président de la République.
Ça, c'est la formule magique. Merci en tout cas, Marlène Schiappa, d'être venue dans RTL Soir.
Merci,
je rappelle, le numéro dédié aux femmes victimes de violences, c'est le 3919, qui est un numéro d'écoute, mais pas un numéro d'urgence. Un numéro d'urgence, ça reste celui de la police le 17. Il sera bientôt ouvert 24-24, le 3919. Ça aussi, c'est acquis ou pas ?
Ça fait partie des choses sur lesquelles on est en train de réfléchir.
Mais c'est pas réglé encore.
Pas encore.
Merci beaucoup, Marlène Schiappa.
Merci à vous.
RTL Soir, 18h45.
Dans quelques secondes, un œil s'ouvre sur l'actualité, comme tous les mercredis, c'est celui de Philippe Cavrivière.
Thomas Soto, RTL Soir.